Les années-lumière, édition du 18 octobre 2009. Les baleines sont bel et bien affectées par l'exploration gazière dans le Saint-Laurent. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe, la nombreuse équipe des Années-Lumière. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors Gaël, Lucia Berdou, c'est vous qui êtes allée cette semaine observer les baleines.
Les observer, Yannick, et les écouter. Des chercheurs réunis à Québec expliquent comment le bruit, notamment celui de la prospection sous-marine, affecte les mammifères marins.
Chantal Srivastava, vous avez vous aussi plongé dans la mer de Bering d'abord et plongé surtout dans le temps.
Des sédiments marins racontent l'histoire du climat de la Terre. Yannick, un plongeon de 5 millions d'années pour mieux prévoir l'avenir.
Nathalie Vigneault, stagiaire de la Bourse Fernand Seguin. Nathalie, vous êtes chargée cette semaine du courrier des auditeurs.
Effectivement, nous répondons à la question de M. Raymond Falardeau au sujet des satellites artificiels.
Et après le courrier, ce sera la chronique des années-lumière. Cette semaine, Yves Gingras pose une grande question. Qu'est-ce qu'un prix Nobel canadien ou australien d'ailleurs, ou italien ou même polonais? Une bonne question là. Deuxième heure, on la commence en grande rencontre. Et c'est vous, Sophie-André Blondin, qui recevrez vraiment un grand monsieur de la science.
Spécialiste de la topographie de l'univers, écrivain, poète, musicien, si l'astrophysique a une âme, Jean-Pierre Luminet y est certainement pour quelque chose.
Et après le petit journal de la science, vous serez Hugues de Roussan, un journaliste très branché.
Oui, branché comme les voitures hybrides ou tout électriques rechargeables. Le Canada et le Québec peuvent-ils se permettre de manquer le bateau?
Mais pour commencer donc, les baleines. Entendu Gaël, Lucia Berdou, on entend le chant des baleines, hein, de mieux en mieux connu ce chant-là, mais que les chercheurs, paradoxalement Gaël, ont de plus en plus de mal à entendre dans la cacophonie grandissante des océans.
Imaginez Yannick, entre les navires marchands, les plateformes pétrolières, les ports, dans le Pacifique seulement, on calcule que le niveau de bruit a doublé à chaque décennie depuis 40 ans. Et comme le son voyage beaucoup mieux dans l'eau que dans l'air, un son sous-marin peut se propager facilement sur des kilomètres. Et si nous, bien sûr, on est sensible au bruit ambiant, la pollution sonore, on peut penser que les baleines le sont aussi, que le bruit les dérange. Je ne sais pas ce que vous faites, vous, Yannick, quand vous essayez de parler dans un endroit qui est bruyant.
Je me tais ou je me sauve.
Vous vous taisez, vous vous sauvez, vous parlez plus fort. C'est exactement ça que les mammifères marins font, si on en croit les nombreux travaux sur la question qui ont été présentés cette semaine à Québec à la 18e conférence biennale sur la biologie des mammifères marins. Sur 5 jours de congrès, il y a eu 2 journées bien remplies de présentations seulement sur le sujet du bruit.
Oui, c'est incroyable.
Toutes sortes de bruits, notamment un type de son qui inquiète de plus en plus les chercheurs, ceux produits par les relevés ou les explorations sismiques.
Les relevés sismiques?
Oui, les relevés sismiques, ce sont des opérations qui permettent de cartographier les fonds marins. C'est devenu une opération courante, notamment dans la prospection pétrolière et gazière, mais aussi en recherche scientifique, bien sûr. Et ce sont des exercices qui sont controversés parce que pour faire ces relevés-là, il faut émettre des sons puissants avec des sortes de canons à air comprimé. Ça se fait maintenant un peu partout, notamment près de chez nous, dans le fleuve Saint-Laurent. C'est ce qu'a constaté, un peu par hasard d'ailleurs, Lucia Di Iorio, qui est chercheure à l'Université de Zurich. Alors qu'elle écoutait des baleines bleues faire des vocalises dans l'estuaire, Madame Di Iorio a entendu ces tests sismiques. Eh bien, elle en a profité pour écouter, pour voir si les baleines réagissaient à ces tests. Elle nous précise d'abord comment sont faits ces relevés sismiques.
Il y a un bateau qui fait des relevés, donc il a des routes précises qu'il parcourt à une vitesse constante. Ils produisent des sons très très forts. Ils ont en même temps des microphones sous-marins qu'on appelle hydrophones qu'ils traînent derrière le bateau. Donc le son est émis en vertical vers le bas. L'écho du son remonte à la surface et est capté par ces hydrophones. Donc avec cet écho, en fait, on est capable de voir la structure du sol, comment c'est formé. Et dépendant des techniques, on peut voir plus profond ou plus en détail. C'est comme faire une échographie, en fait, du fond.
Donc ça intéresse évidemment les géologues. Et ça intéresse aussi les chercheurs qui s'intéressent aux mammifères marins comme vous, parce que des fois, ça a des impacts sur les mammifères marins ou sur leur communication. C'est ce que vous avez regardé, vous?
C'est ça. Ce que moi, j'ai regardé, c'est en fait s'il y avait des effets sur la communication des baleines bleues. Et ce que j'ai fait, moi, j'ai regardé surtout un type de son des baleines bleues. Donc, les baleines bleues produisent deux types de vocalises. D'un côté, ce qu'on appelle des chants. Donc, c'est surtout les mâles, quand ils voyagent sans voir les autres compagnons. Ils produisent des longues séquences de sons très, très, très graves qui durent des heures, même des jours. Et puis, de l'autre côté, il y a les vocalises sociales. Et c'est des sons un peu plus hauts. C'est les mâles et les femelles qui les produisent. Et toujours, on les entend pendant des contextes sociaux et aussi dans les aires d'alimentation. C'est des sons qui sont produits un à la fois, ils sont moins intenses aussi et pas en séquence. Et l'énergie maximale des tests sismiques, des impulses des tests sismiques, elle couvre la fréquence de ces types de sons-là. Donc l'impact sur ce type de sons-là, sur les sons sociaux, pourrait être majeur par rapport au chant.
Est-ce que c'est ce que vous avez constaté?
Oui, c'est ce que j'ai remarqué en fait, c'est que pendant les tests sismiques, les baleines bleues produisent plus de ces sons sociaux.
Donc, comme si elles répétaient un peu ce qu'elles essaient de dire.
Exactement. Et c'est ce qu'on pense, en fait. C'est une des stratégies pour essayer de compenser l'impact du bruit. C'est de répéter ce qu'on dit. Et ce qu'on pense, c'est en fait que dans ce contexte social où les baleines sont assez proches l'une de l'autre, et où un son n'est pas répété souvent, mais on l'entend seulement de temps en temps, c'est important pour eux de pouvoir passer cette information-là. Donc, ce qu'on pense, c'est en fait qu'ils répètent les sons pour que l'information passe. Et on a vu ça, on a fait plusieurs analyses, donc on a comparé les jours où il y avait des tests sismiques et les jours où il n'y en avait pas. Et c'était ça pendant les jours qu'il y avait des tests sismiques, ils vocalisaient plus. Et puis aussi des périodes où il y avait des signaux sismiques très forts et où il n'y en avait pas, pendant les jours où il y avait les relevés sismiques, et là aussi, elles vocalisaient plus. Donc ça a l'air que c'est vraiment ces relevés qui ont une influence sur la communication. Et ça dépend peut-être du contexte. Dans un contexte social, il faut penser que les baleines, c'est des animaux solitaires. Ils voyagent tout le temps. Donc les aires d'alimentation, ce n'est pas seulement des endroits où ils mangent, mais aussi ça donne une possibilité de se rencontrer, de socialiser. Donc peut-être c'est encore plus important là, quant à cette opportunité-là, de voir les autres assez proches de toi, de pouvoir passer ton information.
Lucia Di Iorio de l'Université de Zurich, donc, qui tendait l'oreille dans le Saint-Laurent, Gaëlle. Mais il y a aussi des recherches du même genre, j'imagine, qui ont été faites ailleurs.
Oui, tout à fait, et avec des résultats du même ordre, notamment dans la mer de Beaufort, où des chercheurs américains ont constaté des effets similaires donc sur des baleines boréales, dans ce cas-là. Ouais. Des effets qui se font sentir sur des distances qui vont jusqu'à 50 km. Alors, selon les cas, les baleines, on le dit, se taisent, parlent plus fort, s'en vont même ailleurs. Et il n'y a pas seulement les relevés sismiques qui causent ce type d'effet. Il y a d'autres types de sons qui posent problème ou qui sont montrés du doigt par certains chercheurs, notamment les sonars. Ce sont des appareils qui servent par exemple aux pêcheurs commerciaux pour trouver du poisson, mais ça sert aussi dans la marine militaire pour repérer par exemple des sous-marins. Les sous-marins qui, eux, ne font pas de bruit, il faut le dire. Ces sonars militaires sont très puissants et ont parfois des effets dévastateurs sur les cétacés. C'est ce que nous dit Lucia Di Iorio.
L'impact du bruit sur les baleines, il faut vraiment regarder les espèces. Donc surtout, où est-ce que la majeure énergie est dans le bruit et qui vocalise exactement dans cette bande où il y a beaucoup d'énergie par rapport au bruit.
Selon les fréquences.
Exactement, selon les fréquences. Donc par exemple, dans les sonars, il y a deux types de sonars. Des sonars de moyenne fréquence et les sonars de basse fréquence. Donc celle de moyenne fréquence, par exemple, c'est là qu'on pense que les baleines à bec, les orques, les cachalots soient plus affectés. Ce qui est très très clair, c'est que ces tests de sonar ont un impact énorme sur les baleines à bec. Donc souvent, après qu'il y a eu des tests de sonar militaire de fréquence moyenne, il y a des échouages. Donc pratiquement toutes les années dans les îles Canaries, par exemple, il y en a eu en Hawaï, il y en a eu un peu partout. Et c'est assez clair qu'il y a un lien entre les deux choses.
Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi des sonars militaires réussissent à faire échouer des baleines à bec?
Il y a une théorie, mais ça reste une théorie. Ce qu'on a remarqué, que dans tous les individus qui étaient échoués, qui sont morts, il y avait des bulles d'air dans les organes. Donc, ce qu'on pense, c'est que les baleines à bec, on connaît très peu leur système social et leur comportement. C'est des baleines qui plongent très, très profond, un peu comme les cachalots, vraiment très, très profond, plusieurs kilomètres de profondeur. Donc, ce qu'on pense, c'est que c'est frais, quoi. Elles ont peur tout d'un coup. Elles changent de comportement trop vite. Donc elles remontent trop vite un peu à la surface. Et que ça fait que l'air qui est d'habitude lié au tissu ou dans le sang, comme si ça le détachait et créait des bulles d'air.
À cause du changement de pression, dans le fond.
Exactement.
Comme pour un plongeur qui remonte trop vite.
Exactement. Comme chez nous, ça crée des thromboses. Probablement c'est ça qui les tue.
Lucia Di Iorio, donc, de l'Université de Zurich. Du bruit, encore du bruit. Là, c'est un peu moins beau que le chant des baleines.
Oui, oui. Ça, c'est le bruit d'un cargo tel qu'entendu par un beluga qui se promènerait dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, près de Tadoussac. Il y a beaucoup de transports maritimes dans ce coin-là, évidemment, beaucoup de baleines aussi, et beaucoup de touristes qui viennent voir ces baleines en bateau, justement.
Oui,
et ces bateaux
sûr.
De touristes, eux, ne font pas tout à fait le même bruit que les porte-conteneurs.
Yannick,
c'est un Zodiac tel qu'entendu par un beluga et tel qu'on peut l'entendre sur le site Internet du GREM, le groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins de Tadoussac. Le son est vaguement différent, vous l'avez entendu, mais c'est une nuance qui peut prendre beaucoup d'importance si on est un beluga.
Oui.
C'est ce qu'a mesuré Ian McQueen, chercheur pour Pêche et Océan Canada à l'Institut Maurice Lamontagne, près de Rimouski. Il s'est littéralement mis dans la peau, dans les oreilles en fait, des belugas pour savoir quels sont les endroits de la région où le fleuve est le plus bruyant.
On a pris un recensement de tous ces bateaux-là, puis on a mesuré la signature de bruit de chaque bateau, ou chaque type de bateau, pour comparer ça avec la sensibilité des belugas pour entendre ces bruits-là. Ce qu'on a trouvé, c'est que même si des gros bateaux produisent plus de sons sur un large spectre, ça veut dire toutes les fréquences, de bas fréquence vers la haute fréquence, les belugas n'entendent pas les basses fréquences. Donc, c'est plus des bateaux comme des Zodiacs, des petits bateaux hors bord qui produisent moins de sons globalement, mais plus de bruit dans les fréquences audibles pour les belugas qui sont les bateaux le plus dérangeants.
Donc, l'idée, c'est d'avoir une idée géographique ou spatiale de où les sons sont produits, donc une espèce de carte, puis éventuellement de l'impact que ça va avoir sur cette population spécifique que sont les belugas?
Oui. Ce qu'on essaie de décrire, c'est les zones qui sont bruyantes et moins bruyantes pour les belugas, pour essayer de relier ça avec la distribution des belugas dans le parc. Et en dehors du parc, si on parle de la rive sud vers Kakuna ou à l'est de l'île verte, île rouge, excuse.
Donc, d'essayer de comprendre pourquoi les belugas se retrouvent à un endroit où évitent peut-être certains endroits bruyants?
Il y a un facteur d'évitement. Il y a des secteurs qui sont connus comme très bruyants et qui sont confirmés par les mesures qu'on a prises, où il y a moins de belugas qu'auparavant. Il y a aussi des secteurs peu bruyants, plus silencieux, où on trouve plus de belugas femelles, souvent avec veaux, qui sont, pour toute fin pratique, des refuges de bruit pour ces animaux-là. C'est important de décrire ces zones-là pour être capable de comprendre l'usage des animaux de ces endroits-là et pour les protéger si on trouve que l'usage est important pour leur survie.
Surtout dans le cas d'une espèce menacée comme le beluga.
Exactement. Tout facteur qui peut influencer la survie ou le fitness, qu'on dit, des animaux, la capacité des animaux de bien vivre dans leur environnement sont importants pour une espèce en danger, parce que tous les facteurs qu'on peut trouver qui influencent le survie d'une population sont importants, parce que c'est souvent l'accumulation de ces facteurs-là qui fait qu'un animal va bien vivre ou possiblement mourir.
C'était Ian McQueen de l'Institut Maurice Lamontagne. Donc, je comprends, Gaëlle, qu'une fois qu'on sait où est le bruit, c'est là qu'on essaye de vraiment bien mesurer les impacts sur les animaux.
Hein. Des impacts qu'on ne connaît pas encore très bien, mais enfin, le but, ce serait de coller cette carte sonore à celle des lieux, par exemple, de reproduction, d'alimentation, des bélugas ou d'autres mammifères marins, pourquoi pas. Tout ça pour mieux cibler, bien sûr, les endroits à protéger, pour protéger ces espèces. Protéger notamment du bruit. Surtout que les chercheurs croient qu'avec l'acidification des océans, Yannick, qu'on observe avec la hausse du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, eh bien le son va se propager de plus en plus loin dans l'eau.
Sale temps pour les baleines. Merci beaucoup, Gaëlle.
Je vous en prie.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Et vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière avec Yannick Villedieu.
Climat maintenant, oui, de nouveau en matière de climat, on le sait, il y a de nombreux scientifiques qui se tournent vers le passé pour mieux entrevoir ce que nous réserve l'avenir, et même que certains, Chantal Srivastava, lisent l'histoire au fond des mers.
C'est vraiment fascinant, Yannick, de savoir que des scientifiques arrivent à lire l'histoire de la Terre grâce à des carottes de sédiments forées dans les profondeurs marines, et même qui peuvent ainsi remonter très loin dans le temps. D'ailleurs, pour vous donner une idée, une équipe internationale vient tout juste de ramener sur la Terre ferme près de 6 kilomètres de carottes de sédiments provenant des profondeurs de la mer de Bering. Alors, un périple de 2 mois qui a permis à 35 scientifiques de faire un voyage de 5 millions d'années en naviguant tout simplement entre la Colombie-Britannique et le Japon à bord d'un navire scientifique hyper sophistiqué qui s'appelle le JOIDES Resolution. J'ai rencontré cette semaine un des scientifiques qui a eu le privilège de participer à cette expérience. Il s'appelle Taoufik Radi. Il est chercheur postdoctoral au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'Université du Québec à Montréal. C'est un expert en micropaléontologie. Taoufik Radi explique tout d'abord en quoi consiste sa discipline.
La micropaléontologie, en fait, c'est l'étude des micro-organismes fossiles qui sont préservés dans les archives sédimentaires au fil des milliers d'années et des millions d'années.
Et vous appliquez cette discipline-là au domaine de l'océanographie?
Exactement, parce que à partir de ces organismes qui sont préservés dans le sédiment, on essaye de faire des reconstitutions paléo-océanographiques. Je veux dire par ça, des reconstitutions climatiques à partir de séquences sédimentaires.
Alors, vous venez de participer à une expédition hors du commun, M. Radi. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit exactement? Où êtes-vous allé et pour y faire quoi, au juste?
En fait, c'est une expédition qui a été initiée il y a plusieurs années par un groupe de recherche appartenant à plusieurs institutions internationales et qui avait pour but d'aller explorer l'histoire paléocéanographique de la mer de Bering. La mer de Bering, c'est une très grande mer épicontinentale qui se trouve entre les îles Aléoutiennes, en nord du Pacifique, et le détroit de Bering qui sépare le Pacifique et l'Arctique. En fait, il se trouve entre la Sibérie et l'Alaska. Pourquoi la mer de Bering? Parce que la mer de Bering, c'est un endroit, c'est un bassin semi-fermé qui est susceptible d'enregistrer d'une manière continue les événements climatiques au fil des millénaires. Et aussi parce que c'est un endroit qu'on ne connaît pas jusqu'à l'heure actuelle. Donc, c'est un endroit qui est nouveau et qu'on voudrait explorer.
Alors, vous êtes allé faire quoi exactement?
On est allé prélever des carottes sédimentaires pour étudier l'histoire paléocéanographique du Pacifique Nord. Donc, faire des forages océaniques et dans ces trous de forage, on prélevait des séquences sédimentaires.
Alors, vous êtes revenu avec quoi? Près de 6 kilomètres de carottes de sédiments au total?
Exactement 5700 et quelques mètres de sédiments, oui, qui représentent 5 millions d'années d'enregistrement sédimentaire.
Qu'est-ce que vous cherchiez? Pourquoi aller explorer, se donner tout ce travail, donc, pour aller explorer, extirper tout d'abord des carottes de sédiments et les étudier par la suite?
Alors, l'objectif principal de la mission, c'est explorer l'histoire paléocéanographique du Pacifique Nord. À partir de ces séquences sédimentaires, on pourrait aller faire des reconstitutions assez précises de climat du passé, qui va nous aider pour mieux prédire l'avenir.
Qu'est-ce qui vous parle dans ces carottes de sédiments? Quelle est l'information que vous allez chercher?
Alors, il y a plusieurs traceurs, ce qu'on appelle les traceurs sédimentaires dans les carottes, incluant des restes d'organismes microscopiques qui sont préservés dans le sédiment, incluant aussi des éléments chimiques qui sont préservés dans le sédiment, qu'on appelle des proxys. Donc, tous ces restes nous parlent des conditions de l'océan, des conditions de l'environnement et puis des conditions du climat qui prévalaient à l'époque. Moi, je m'intéressais spécifiquement à un microfossile qui s'appelle les kystes de dinoflagellés. Ce sont des microfossiles qui ont été laissés par des organismes qui vivaient dans l'eau, en fait, et dans leurs restes ont été sédimentés et sont préservés dans le sédiment. Et ces microfossiles sont des indicateurs extraordinaires et sont des traceurs des conditions océanographiques et hydrographiques.
Et ce dinoflagellé-là vit à la surface de l'océan lorsqu'il est vivant?
Exactement, il vit à la surface entre 0 et 30-40 mètres de profondeur parce qu'il y a la lumière, parce que la majorité des dinoflagellés ont besoin de la lumière pour vivre parce qu'ils font de la photosynthèse.
Alors, il existe différents types de dinoflagellés et selon ce que vous trouvez, vous savez, le climat qui régnait, vous parvenez à dater, ils sont très bavards ces dinoflagellés.
Ah, oui, exactement, parce que dans les dinos, quand on compte, il y a peut-être, on en compte 60-70 espèces et chaque espèce est différente. Chaque espèce, il a un mode de vie différent et il a des exigences écologiques différentes. Il y a des espèces qui vivent avec la glace de mer, il y a des espèces qui vivent dans des eaux plus chaudes, et il y a des espèces qui aiment le froid, et ainsi de suite. Donc, l'assemblage et les pourcentages des différentes espèces dans un sédiment nous permet d'évaluer l'environnement, d'évaluer la glace de mer, d'évaluer la production, d'évaluer la température et la salinité de l'eau.
À partir de ce que vous avez pu observer, là, je sais qu'on parle de résultats préliminaires parce que vous allez travailler encore durant des mois et des mois.
Exactement, ouais, là, c'est rien par rapport à ce qu'on va faire parce que chaque chercheur, il a genre 1000 échantillons à traiter après dans le laboratoire et faire des études pour, disons, les 2-3 prochaines années, même voire plus.
Donc vous en avez pour 2-3 ans encore?
Moi, j'ai un plan de travailler pour 2 ans, 2 ans et demi facilement avec ces échantillons-là, ouais.
À partir de ce que vous avez eu maintenant comme information préliminaire, est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer depuis 5 millions d'années dans la zone où vous êtes allé?
Oui, il y a une histoire qu'on connaissait mal et qu'on commence à peine à connaître, incluant quand la glace de mer est apparue dans la mer de Bering pour la première fois. Et comment cette glace de mer, par exemple, a changé durant le Pléistocène, durant les 2 derniers millions d'années, et comment finalement a disparu d'une manière définitive il y a peut-être 15-10 000 ans dans le bassin profond de la mer de Bering.
Quelle est l'importance de cette zone-là, la mer de Bering, par rapport à toute la circulation océanique sur la planète?
Ben justement, cette expédition a été faite pour voir l'importance de la mer de Bering. On ne connaissait pas vraiment l'importance de la mer de Bering en particulier et l'océan Pacifique Nord en général dans l'histoire climatique. On sait très bien comment ça fonctionne le système, la circulation océanique dans d'autres parties de l'océan mondial, comme par exemple l'Atlantique Nord. Mais la mer de Bering et le Pacifique Nord restent encore un mystère pour nous. On va essayer dans les mois à venir, en étudiant toutes ces carottes sédimentaires qu'on a prélevées dans notre expédition, pour répondre à ces questions.
Des questions qui sont lesquelles, par exemple?
Les questions, par exemple, tout simplement, comment l'océan Pacifique influence sur l'océan Arctique via la communication entre le Pacifique Nord et l'Arctique via le détroit de Bering, le petit détroit qui existe entre la mer de Bering et l'océan Arctique.
Parce qu'il y a communication entre des masses d'eau qui sont différentes.
Exactement. Les masses d'eau du Pacifique Nord sont extrêmement différentes de celles de l'Atlantique Nord et de l'Arctique, alors que la seule communication entre les deux océans, c'est le petit détroit qui fait à peu près 50 km entre les deux grands océans. durant le temps, les millions d'années, cette ouverture s'est fermée et s'est ouverte, s'est fermée et s'est ouverte. Et l'histoire de cette fermeture et cette ouverture qui nous donne des indications sur la communication entre les deux océans va nous aider à comprendre comment l'océan Pacifique et comment la mer de Bering influence sur le climat en injectant par exemple de l'eau du Pacifique Nord qui est moins salée, qui va aller diluer l'eau de l'Atlantique Nord et de l'Arctique et qui va diminuer la formation de profondes, par exemple, dans l'Atlantique Nord, qui aura des conséquences sur le climat mondial.
Et ça nous donne des indices également sur le climat qui régnait à l'époque. On peut voir s'il y avait de la glace, quelle était la température de l'eau et ainsi de suite.
Exactement. Tous ces proxys dont j'ai parlé tout à l'heure servent à faire ce qu'on appelle des reconstitutions paléocéanographiques, à déterminer c'est quoi, par exemple, la température de l'eau à un certain moment donné. Comment cette température a changé d'une manière quantitative et on essaye à retracer l'histoire du climat et l'histoire de l'océan.
Qu'est-ce que ça peut nous apprendre pour l'avenir? Plusieurs s'inquiètent de ce qui nous attend demain et on essaie de prévoir. Comment les expériences comme celles que vous avez faites peuvent nous aider à mieux envisager ce que peut nous réserver l'avenir dans 100, 200, 1000 ans?
Ouais. Vous savez, actuellement, on se base beaucoup sur les modèles numériques, les modèles mathématiques qui font tourner pour savoir c'est quoi le climat, qui va être le climat dans 100 ans, dans 50 ans, dans 200 ans. Et ces modèles numériques, ils sont basés uniquement sur les relations physiques qui existent entre les différentes constituantes du modèle. Ces modèles, on pourrait les valider par des reconstitutions dans le passé, parce que les reconstitutions passées sont basées sur des organismes vivants, sur du concret. C'est pas une équation, c'est quelque chose de concret. Donc on pourrait valider notre modèle. On prendrait un modèle, on va faire tourner dans le passé et on va comparer avec les données paléocéanographiques déduites par les organismes biologiques. Donc on pourrait valider le modèle, on pourrait ne pas le valider ou bien on pourrait imposer des contraintes pour ce modèle pour qu'on le fasse tourner dans le bon sens, si vous voulez.
Ouais. Mais merci.
Taoufik Radi est chercheur postdoctoral au département des sciences de la Terre et de l'atmosphère à l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal.
Et il revient, Yannick, il faut le rappeler, hein, d'un voyage de 5 millions d'années en mer de Bering. Il a ramené dans ses voyages des lamelles de microfossiles qu'il va étudier durant les prochaines années pour mieux nous aider à prévoir le climat. Il attend également sous peu là, des petits sacs remplis de terre pour faire encore plus de lamelles qui seront matière à analyse.
Quelle patience. Merci beaucoup, Chantal.
Je vous en prie.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Venir en deuxième heure, une grande rencontre avec Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, romancier, poète, musicien, artiste. À se demander comment il fait tout ça.
On me dit toujours, mais comment vous faites, c'est extraordinaire. J'ai dit, mais non, je serais incapable de faire autrement. Je n'arrive pas à m'atteler, si vous me mettez au début de la journée dans mon bureau, je n'arriverai jamais à travailler 8 heures de suite sur l'univers chiffonné. Je vais travailler 2 heures, puis après, il faut absolument que je passe une demi-heure à écrire un petit bout d'un roman, et puis après, je vais faire, faire un petit peu de musique chez moi, et puis je reviens, etc. Je fonctionne un petit peu par petits bouts, et je rassemble peu à peu les pièces d'un grand puzzle. Ça veut dire tout simplement que je ne suis pas très linéaire.
Très linéaire et peut-être un peu hyperactif. En tout cas, on va le voir en deuxième heure. Alors, c'est le moment maintenant du courrier des auditeurs. Cette semaine, la question porte sur la propulsion des satellites artificiels en orbite autour de la Terre.
Bonjour, j'aimerais savoir si les satellites artificiels qui tournent autour de la Terre ont besoin d'un système de propulsion pour maintenir leur orbite ou juste laisser tourner une certaine distance de la Terre et ils peuvent maintenir leur orbite. Merci. Mon nom, c'est Raymond Falardeau. Bonjour.
Alors, pour répondre à la question de M. Falardeau, notre stagiaire Fernand Seguin, Nathalie Vigneault, a joint Robert Saint-Jean de la division de l'exploitation des satellites au centre John H. Chapman à l'Agence spatiale canadienne.
Oui, effectivement, on a besoin de maintenir un très bon contrôle sur l'attitude d'un satellite selon le type d'application auquel il est soumis. Par exemple, pour les télécommunications, on a besoin de maintenir le satellite au-dessus d'un point donné de la surface de la Terre. Pour d'autres types de satellites, comme les satellites d'observation de la Terre, eh bien, on doit connaître exactement à quelle heure et à quel endroit le satellite va passer au-dessus d'une région donnée.
Oui, donc les satellites qui sont à des altitudes différentes n'ont pas besoin du même contrôle.
Non, le contrôle est quand même passablement différent. À l'Agence spatiale, ce qui nous concerne présentement, la division de l'exploitation de satellites, c'est les deux satellites Radarsat qui sont sur des orbites à 798 km d'altitude, sur des orbites polaires. Et là, ben, à cause de différentes perturbations qui se produisent à ce niveau-là, à cette altitude-là, eh bien, il faut parfois faire des corrections à l'orbite pour maintenir la position exacte du satellite. Les satellites de communication, c'est un autre problème parce qu'ils sont sur orbite géostationnaire qui est à 36 000 km d'altitude à peu près. Donc, ils sont beaucoup plus loin. Et puis, à ce niveau-là, ils n'ont pas de problème avec les résidus d'atmosphère puisqu'ils sont très, très loin. Ils ont très peu de problèmes de cette nature-là. Mais quand même, ce sont des orbites qui sont très, très occupées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de satellites de télécommunication. Et puis, il faut veiller à maintenir les satellites pour éviter tout type de collision à cette orbite-là aussi.
Donc, ils ont quand même besoin de carburant?
Oui, absolument, oui. Ils ont besoin de type de dispositifs pour ajuster et maintenir leur orbite.
Et qu'en est-il de la mise en orbite de ces satellites avant qu'ils soient dans leur orbite définitive? Ont-ils besoin d'une forme de propulsion indépendante de la fusée?
Oui, évidemment, la mise sur orbite originale, c'est une étape extrêmement critique. Si le lancement n'a pas été fait de façon parfaite, eh bien là, il faut amener le satellite à son orbite définitive le plus rapidement possible. Si le lancement n'a pas été parfait, donc, il va falloir procéder à une série de manœuvres qui vont permettre d'amener le satellite de l'orbite à laquelle la fusée l'a laissé à l'orbite à laquelle on désire l'avoir. C'est une étape extrêmement critique et très compliquée aussi parce qu'on travaille à distance. Habituellement, ça se fait par téléchargement de données puis d'instructions vers le satellite.
Et dites-moi, est-ce qu'en fin de vie, ces satellites nécessitent une forme de propulsion?
Oui. Bon, là, on fait face à deux types de fin de vie, soit une fin de vie prédite ou accidentelle. Dans le cas d'une fin de vie accidentelle, s'il y a eu une collision, s'il y a eu une défaillance majeure des systèmes à bord et qu'on a perdu le contrôle du satellite, ben, c'est terminé, on ne peut rien faire. Dans le cas où on arrive à la fin d'une vie prévue d'un satellite, eh bien, maintenant, dans les ordres de manœuvre des satellites, il est prévu qu'à la fin de la vie, on déplace le satellite à un endroit où il ne pourra pas nuire aux autres satellites. Soit qu'on le met sur une orbite de garage, soit on le met sur une orbite qui va l'amener à se désintégrer dans l'atmosphère. Et puis, pour faire ça, ben, on a évidemment besoin d'un système de propulsion. Mais ça, c'est dans le cas d'une fin de vie prévue.
Donc, c'est dans le cadre de gestion de déchets, finalement?
Exactement, oui. Parce qu'on s'est rendu compte de façon assez dramatique qu'il peut y avoir des problèmes et qu'un problème de collision dans l'espace, c'est pas pareil comme un problème de collision sur une route. Ici, on peut enlever rapidement les débris, mais dans l'espace, c'est tout un casse-tête.
D'accord, je vous remercie beaucoup.
Au plaisir, merci.
Nathalie Vigneault s'entretenait avec Robert Saint-Jean, gestionnaire des données radar au Centre spatial John Chapman, situé à Saint-Hubert, sur la rive sud, près de Montréal. Alors, si vous avez, vous aussi, des questions de science, vous pouvez nous les envoyer par téléphone de la région de Montréal. Vous composez le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, c'est le 1-800-752-9050, un numéro sans frais, bien évidemment. Puis par courriel, vous pouvez aussi nous joindre à l'adresse suivante, lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière pour terminer la première heure cette semaine avec Yves Gingras. Bonjour Yves.
Bonjour Yannick.
Historien, sociologue des sciences, critique du monde de la science.
Et professeur à l'UQAM.
Et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Et qui va réfléchir aujourd'hui, Yves, sur les prix Nobel, notamment les prix Nobel canadiens La saison 2009 des Nobel vient de se terminer. On a eu un prix Nobel canadien. Vous êtes content?
Ben oui, à chaque année, on nous rebat les oreilles avec les prix Nobel et on se dépêche toujours de mentionner. Si on est australien, les nouvelles vont dire que le prix Nobel de médecine, par exemple, Elizabeth Blackburn, va être australienne. Dans le cas qui nous occupe ici, on va mentionner que le prix Nobel de physique de William Boyle est canadien. Oui. Donc, ça m'a amené à me poser la question, au fond, assez simple, mais qu'on ne pose jamais. Qu'est-ce qu'un prix Nobel canadien ou qu'est-ce qu'un prix Nobel australien? Et donc, la réponse la plus simple, en même temps la moins intelligente, c'est de dire c'est le lieu où il est né. C'est ce qui est arrivé avec le prix Nobel de Boyle. On dit Boyle est né au Canada et a pris sa retraite au Canada. En Australie, Mme Blackburn est née en Australie, mais a fait sa carrière aux États-Unis, tout comme Boyle a fait sa carrière aux États-Unis. Donc, sur le plan sociologique, la vraie question, c'est qu'un prix Nobel canadien ou australien devrait être un prix Nobel lorsque la recherche qui a mené à la découverte a été faite dans le pays. Donc, posons-nous des questions. Plus de la moitié des soi-disant prix Nobel canadiens ne sont en fait pas des prix Nobel canadiens, au sens que leurs travaux ont tous été faits aux États-Unis, tout comme celui de Mme Blackburn. Donc, on se dépêche à faire de la promotion en se vantant qu'on est associé à un prix Nobel parce qu'il est né, et on ne tire pas, au fond, la question fondamentale, c'est comment se fait-il qu'il y ait autant de prix Nobel soi-disant américains?
Oui, parce qu'il domine largement, hein, tous les ans, c'est un festival américain, le prix Nobel.
Exactement, et donc, on a actuellement, si on prend l'exemple de l'Australie, pour ne pas taper trop sur nos concitoyens, il y a 10 soi-disant prix Nobel australiens. Donc, on voit qu'il y en a moins que 10 parce qu'un bon nombre d'entre eux n'ont pas fait leur découverte en Australie. Plus de 260 sont américains et probablement plus si on compte vraiment ceux qui ont fait leurs travaux là. Et donc, le comble, je dirais, de l'ironie, c'est le gouvernement australien qui vient d'annoncer sur son site « Étudier en Australie » que l'Australie, avec ses soi-disant 10 prix Nobel de science, est le pays qui a le plus de prix Nobel per capita. Donc, vous voyez qu'on peut toujours trouver un indicateur par lequel on est premier. Mm-hmm. Et bien sûr que pour arriver à ce chiffre-là, elles ont inclus ceux qui, après être nés, comme Mme Blackburn, sont allés faire leur carrière aux États-Unis. Donc, c'est un peu ridicule. Et il faut se poser la question, mais qu'est-ce qui fait qu'on devrait être capable de produire des prix Nobel?
Oui.
Ben, ce qui fait qu'on devrait être capable de produire des prix Nobel, c'est notre infrastructure scientifique. Parce qu'on sait qu'un Nobel, normalement, c'est quelqu'un qui fait des découvertes à la pointe de la science. Or, la pointe de la science depuis au moins la Deuxième Guerre et surtout depuis les années 70, c'est basé sur des instrumentations, c'est basé souvent sur des équipes. Parce que la science, en gros, on pense à la chimie, on pense à la physique, on pense à la médecine. Ce sont des sciences très instrumentées, ce sont des sciences collectivisées où on a de plus en plus d'individus. C'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que vous voyez à peu près plus de prix Nobel de chimie, de physique et de médecine qui sont attribués à un seul individu.
Alors, si vous regardez, la plupart du temps, sont plusieurs individus, effectivement.
Et comme le maximum, c'est 3, la plupart du temps, on en trouve 3. Et parfois, on en trouve 3 dans des domaines différents, hein, parce que vous voyez que souvent, on va donner la moitié du prix Nobel pour une découverte, l'autre demi pour une autre découverte complémentaire. Si vous remontez au début du siècle, vous voyez que d'un grand nombre de prix Nobel sont des individus uniques.
Hein. La science, à l'époque, se faisait comme ça.
Exactement. On n'en est plus là, et je pense qu'il faut se dire, et donc on revient par là à la question qu'on se posait, pourquoi il y a tant de prix Nobel américains? Il y a tant de prix Nobel américains... Non pas parce que ce sont tous des Américains. Un bon nombre qu'on pense encore, pour prendre toujours l'exemple de Mme Blackburn ou pour prendre l'exemple de Boyle. Mm-hmm. Ce sont deux étrangers, en guillemets.
En médecine, effectivement, sur les 3 nobilisés, il y a Mme Blackburn qui est née en Australie et il y a aussi Shostak qui est née à Londres.
Exactement. Mm-hmm. Donc, la force des États-Unis, c'est une force d'attraction. Et pourquoi les États-Unis sont une si forte attraction pour la recherche? Parce qu'ils ont une infrastructure de recherche de pointe très élevée. Si on prend l'exemple de Boyle, il a fait ses travaux à Bell Lab dans les années 50-60. Et donc, à Bell Lab, c'était à l'époque, et ce n'est plus de nos jours, un grand laboratoire de recherche industrielle, mais qui faisait de la recherche en même temps assez fondamentale pour avoir des conséquences industrielles à 10 ou 15 ans, ou même 20 ans plus tard, sinon 30 ans plus tard. Donc, qu'est-ce qui est important pour un scientifique? Ce n'est pas sa nationalité, c'est les outils de travail. Et c'est même pas le salaire. On insiste souvent que les scientifiques devraient être mieux payés. Il est bien évident qu'un scientifique regarde d'abord la qualité du laboratoire dans lequel il est inséré que le salaire qu'on va lui
bien plus
procurer.
Que le salaire, effectivement.
Beaucoup plus, beaucoup plus. Et donc, c'est ça qui fait qu'un grand nombre de soi-disant Américains sont en fait des immigrés qui sont venus attirés par la capacité de se vouer à plein temps à leur passion, disons-le, la recherche.
Ce qui veut dire, Yves Gingras, que quand on se vante, comme le gouvernement australien, vous l'avez signalé, ou d'autres gouvernements non américains se vantent d'avoir des prix Nobel, en fait, ils devraient peut-être plutôt ne pas être trop fiers, ils n'ont pas pu retenir ces compétences, ces ressources intellectuelles chez eux.
Vous avez parfaitement raison. Au fond, on devrait être un peu gêné d'en être rendu à se dire « Ah, lui, il a été assis sur nos bancs d'école pendant quelques années. Lui,
il a fait son primaire chez nous.
Faire son postdoctorat chez nous. Il est resté 2 ans. Il est parti. » Mais pourquoi il est parti? Parce qu'on ne lui donnait pas les ressources pour travailler. Or, ça, c'est une question importante parce que vous savez qu'aujourd'hui, on insiste que nos universités doivent être compétitives. Il y en a qui pensent que cette compétitivité-là passe par des salaires beaucoup plus élevés. En sciences, ce n'est pas le cas. En science, ça passe par une infrastructure technique, un environnement technique et technologique et des fonds importants. Donc, si le gouvernement du Canada, qui est au fond le gros bailleur de fonds de la recherche scientifique, veut vraiment qu'on ait de véritables prix Nobel, il doit s'assurer que les universités ont les ressources, ont la recherche scientifique pour apporter et pour former ici, mais aussi pour amener d'ailleurs. Si on prend un Britannique qui s'installe ici, qui travaille 20 ou 30 ans et gagne le prix Nobel, ça sera un véritable Nobel. Mais avec moins de la moitié des prix Nobel canadiens qui ont véritablement fait leurs travaux ici, on ne peut pas se considérer comme étant un pays qui scientifiquement compte alors qu'on est à la porte des États-Unis, d'où le taux d'immigration très important des futurs prix Nobel.
Yves Gingras, je vous remercie beaucoup.
Ça fait plaisir.
Et voilà, c'est la fin de la première heure des Années-Lumière. Je prends un peu de temps pour vous annoncer que la semaine prochaine, on va vous présenter ce qui promet, à mon avis, d'être un beau morceau de radio. C'est un concours dans lequel vont s'affronter 4 scientifiques de 4 pays, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, bien sûr, qui devront expliquer, écoutez bien, le Big Bang en 3 minutes exactement. Alors, chacun de ses concurrents sera en studio à Montréal, à Paris, à Lausanne, à Liège. Ils vont être jugés, bien sûr, par des élèves de 15 à 17 ans environ qui vont être réunis en studio dans chacun de ces pays. Ça va être vraiment drôlement sérieux ou sérieusement drôle. En tout cas, c'est vraiment à ne pas manquer la semaine prochaine aux Années-Lumière. Et je vous signale que cette spéciale a été réalisée par les radios, sera réalisée en fait par les radios francophones publiques. Donc Radio-Canada, la RTBF, la radio-télévision belge de la communauté française, la radio suisse romande et France Inter. Et en fait, ce projet est plus spécialement réalisé par les émissions, les magazines scientifiques de chacune de ces radios publiques. Alors c'est donc vraiment à ne pas manquer la semaine prochaine, ça devrait être tout à fait intéressant. Amusant quand même, parce qu'il faut le faire, raconter le Big Bang en 3 minutes, c'est assez spécial, assez particulier. Nos concurrents, en tout cas notre concurrent ici à Montréal, je ne vous dis pas c'est qui tout de suite, mais il se prépare d'arrache-pied ou d'arrache-Big Bang à cette épreuve. En attendant, je vous invite à ne pas manquer non plus ce soir la télévision de Radio-Canada à 18h30, l'émission Découverte. Entre autres reportages, le dinosaure mitaire Mio, le plus ancien fossile de pinnipède, avec 2 N à pinnipède, hein, mis au jour à l'île de Vons dans l'Arctique canadien, qui témoigne des premières phases de l'évolution d'un ancêtre lointain du phoque entre son passage d'animal terrestre à animal marin. Puis aussi un reportage qui s'appelle « Une fleur pour diabétiques ». En fait, c'est une entreprise canadienne de Calgary qui est en train de mettre au point une insuline, écoutez bien, une insuline à base végétale. Alors ça, c'est à Découverte ce soir à 18h30. Mais en attendant, vous restez avec nous pour la deuxième heure des Années-Lumière. Après les nouvelles, donc la grande rencontre avec Jean-Pierre Luminet et puis l'auto électrique bien branchée. À tout de suite. Les Années-Lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villedieu, toujours et l'équipe pour vous présenter le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors cette deuxième heure, on la commence avec une grande rencontre des années-lumière. Sophie-André Blondin s'entretient avec l'astrophysicien, poète, philosophe, etc., etc. Jean-Pierre Luminet, une grande rencontre lumineuse. On aura ensuite le petit journal de la science et pour finir, nous prendrons la route avec Hugues de Roussan au volant de la voiture de demain qui sera une voiture hybride, bien sûr. Dans la vie, Jean-Pierre Luminet ne doit pas beaucoup s'ennuyer. Il est astrophysicien, spécialiste des trous noirs, et il a proposé une théorie sur la forme de l'univers, théorie selon laquelle nous vivons dans un univers chiffonné. Il est aussi, Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique à l'Observatoire de Paris. Mais il y a plus. On lui doit pas moins de 16 livres scientifiques, 8 romans, des recueils de poésie, des œuvres visuelles qui ont fait l'objet d'expositions et aussi une œuvre musicale avec le compositeur Gérard Griset. À l'occasion de la parution de son dernier livre, un ouvrage de vulgarisation intitulé « Bonne nouvelle des étoiles », ça s'est publié chez Odile Jacob, et bien Jean-Pierre Luminet a fait un détour par nos studios où Sophie-André Blondin s'est entretenue avec lui d'étoiles, de galaxies, de musique, de peinture, de rêves, etc., etc., etc.
Jean-Pierre Luminet, bonjour.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous accueillir aux Années-Lumière.
Merci.
Vous venez nous parler de ce nouveau, tout nouveau livre, tout nouveau, tout chaud, Bonne nouvelle des étoiles. C'est votre 16e...
Un de plus.
Votre 16e livre scientifique, en plus des 8 romans que vous avez signés, des recueils de poésie là-dedans aussi. Les bonnes nouvelles des étoiles? Mm-hmm. Est-ce que les nouvelles sont bonnes quand elles viennent des étoiles?
Ben d'abord, j'adore l'écriture. Hein. Voilà. Et puis, j'adore donner des bonnes nouvelles. Moi, je ne suis pas du tout sur un tempérament plutôt optimiste. Alors, pourquoi les nouvelles qui viennent des étoiles sont bonnes? C'est vrai qu'un petit peu, je trouve qu'on vit un jour, en ce moment, dans un climat un petit peu morose. Quand on regarde à petite échelle les choses de la Terre, on parle des soucis. Il y a de réels soucis, la crise économique, le réchauffement climatique, tout ça, ça ne va pas très bien. Et dès qu'on prend un petit peu de recul, qu'on change d'échelle, et notamment, évidemment, avec le regard de l'astronomie, on s'aperçoit, on relativise les choses, bien entendu, et on s'aperçoit que finalement, qu'est-ce qui fait, peut-être qu'est-ce qui peut donner du sens, de la grandeur à l'activité humaine aussi, ben, c'est de s'interroger sur des choses qui semblent nous dépasser. Et par exemple, dans quel univers on vit, dans quelle vastitude nous vivons, essayer de comprendre, de déchiffrer les mystères de l'univers. Donc, c'est une approche scientifique qui peut parfois toucher d'ailleurs aussi à une forme d'approche poétique et esthétique du cosmos. Et on fait aujourd'hui tellement de progrès dans cette compréhension, même s'il nous reste plein de choses à découvrir, c'est ça qui est intéressant pour un chercheur, mais on a fait aussi tellement de progrès grâce à nos nouveaux instruments, des télescopes, des accélérateurs de particules, et puis grâce à nos théories. Alors ça, j'y tiens particulièrement parce que moi, mon domaine,
vous venez de
c'est
domaine,
la théorie.
Oui.
Voilà. Et donc, les deux progressent ensemble, on les met... on les confronte et on dévoile peu à peu des choses qu'il y a 50 ans, on n'aurait jamais pensé que l'on puisse comprendre aussi bien finalement ce qui peut se passer au voisinage d'un trou noir, cerner les premiers milliardièmes de seconde, au voisinage de Big Bang, etc. Donc tout ça, je trouve que c'est enthousiasmant, la recherche des exoplanètes, d'une vie ailleurs dans l'univers, tout ça, des sujets donc, qu'on va peut-être un petit peu développer, c'est vraiment enthousiasmant. Donc finalement, ce qu'on reçoit des étoiles, des astres en général, ce sont des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que l'univers nous est en partie compréhensible et on arrive à soulever un peu le coin du voile.
Et ce qui est bon comme nouvelle aussi, c'est que ça suscite encore de l'enthousiasme et de la créativité pour aller y voir un peu plus loin, pour aller y voir mieux.
Oui, c'est bien. C'est vrai qu'on parle souvent, à juste titre, un peu de la désaffection chez les jeunes, des filières scientifiques, dans les études, à l'université. C'est vrai, mais ça ne touche pas encore, en tout cas, à les sciences de l'univers, qui gardent aussi ce potentiel d'étonnement, et avec également un potentiel poétique derrière. Je veux dire, le ciel est beau, il pose beaucoup de questions. Et il y a aussi les grandes questions philosophiques, hein, les fameuses questions, voilà, d'où on vient, où on va, sommes-nous seuls dans l'univers. Ça garde un très fort pouvoir évocateur. Et donc, il y a encore beaucoup de jeunes qui lisent nos livres de vulgarisation et qui, éventuellement, un jour, s'aventurent dans la difficile et l'itinéraire pour arriver éventuellement à devenir un professionnel de l'astrophysique.
Oui, parce qu'il y aura beaucoup de travail, évidemment, pour se rendre là, mais beaucoup de plaisir aussi. Vous l'avez dit, il y a encore des choses qui nous sont inconnues. Il y a encore un grand potentiel de découverte. Oui. Et ça, à tous les niveaux. Votre livre, Jean-Pierre Luminet, vous le divisez en les nouvelles régionales, notre système solaire, les nouvelles nationales, notre galaxie, la Voie lactée, les nouvelles internationales, évidemment, l'univers. Et à tous ces niveaux-là, il y a encore des choses qui nous échappent, encore des choses à découvrir.
Oui, oui.
On ne sait pas tout de notre système solaire.
Oui. Alors, très important, effectivement, d'abord de parler de ces niveaux. En astronomie, on a toujours affaire à des échelles différentes. Alors, c'est vrai que l'échelle du système solaire, j'ai appelé donc l'échelle de la région de certaines façons, c'est une échelle finalement très différente de l'échelle de la galaxie et des étoiles. Et puis après, on passe aux très grandes échelles. Et à chaque fois, ce sont des problématiques différentes. Et dans chacune de ces fenêtres, finalement, il y a des progrès considérables et des questions que l'on n'arrive pas non plus à résoudre, ce qui est justement le moteur de l'interrogation scientifique. Alors, par exemple, à la première échelle, l'échelle de la région, c'est-à-dire le système solaire, le Soleil entouré de ses planètes, ses comètes, ses astéroïdes, etc. On en sait évidemment incroyablement plus qu'il y a 30 ans ou 40 ans, ne serait-ce que parce que on a eu... Là, c'est au moins la partie de l'univers que l'on peut explorer activement. Le reste, évidemment, on ne peut recevoir que passivement les informations venues de loin. On ne peut pas agir sur les astres. Au moins, dans le système solaire, on peut commencer à visiter le système solaire. On envoie des sondes spatiales qui se mettent en orbite. Il y en a même qui se posent sur des sols extraterrestres. Et donc, on sait plein de choses. Mais au-delà de ça, il y a encore plein de questions non résolues. L'une des questions peut-être les plus sensationnelles et les plus fascinantes dans le système solaire, c'est y a-t-il des conditions favorables au développement de la vie dans notre seul système solaire ? Il y en a sur la Terre, on le sait. Il y en a peut-être eu sur Mars dans le passé, des colonies de bactéries qui seraient fossiles aujourd'hui, parce que Mars est devenu quand même assez inhospitalier. Et un petit peu les rebondissements de ces dernières années, c'est qu'on s'est aperçu que déjà sur Terre, il y avait des formes de vie tout à fait étonnantes auxquelles on ne pensait pas il y a quelques décennies. On appelle ça
extrêmes,
les extrémophiles.
Oui, oui.
Voilà, donc ce sont des formes de vie, des bactéries en général, qui aiment les conditions extrêmes. Des bactéries qui vivent dans des geysers de soufre à 200 degrés, qui vivent sous 3000 mètres de vase, dans des lacs glacés de l'Antarctique, etc. Et donc, ce sont justement des conditions si extrêmes qu'on les retrouve ailleurs dans le système solaire. On les retrouve non seulement sur Mars, mais également sur quelques satellites de Jupiter et de Saturne. Alors du coup, on se dit, mais alors, prenons par exemple autour de Jupiter, il y a une belle lune qui s'appelle Europa. C'est une croûte glacée, une banquise d'eau, l'intérieur est chaud. Entre les deux, il doit y avoir un océan liquide, il y a de la chimie du carbone, parce qu'il y a du carbone de partout, il y a une source d'énergie, donc pourquoi pas des formes de vie, des Européens, d'une certaine façon, si vous voulez, des bactéries, voilà, vivant dans l'océan subglaciaire d'Europa. Et pareil pour Encelade, qui est un satellite de Saturne, etc. Nous ne le savons pas encore, mais ce sont de nouvelles questions que l'on ne se posait pas il y a 20 ans, et ce qui est enthousiasmant, c'est de penser que peut-être, au cours de missions spatiales des prochaines décennies, on aura sous la main, d'une certaine façon, des formes de vie, non pas fossilisées depuis des milliards d'années, mais carrément contemporaines de nous.
Et c'est justement ces nouvelles questions, ces nouvelles candidates, planètes ou ces nouveaux satellites candidats au fait d'abriter peut-être maintenant, un jour, plus tard ou jadis.
Ou dans le futur, effectivement.
Ou dans le futur, certaines formes de vie, parce que bon, la température, tout ça, ça va changer, ça va changer aussi les conditions. Mais c'est un peu pour faire écho à ces nouvelles interrogations, à l'état des connaissances que vous publiez, Bonne nouvelle des étoiles, qui va rester bon jusqu'à quand?
Et voilà, bon, c'est effectivement quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Là, j'ai fait une synthèse donc provisoire de ce que l'on peut dire en termes simples aujourd'hui sur l'univers. C'est vrai qu'à 20 ans, ça aurait été assez différent. Donc évidemment, il y a des parties communes, il y a des parties qui ne bougent pas. Et après, il y a des parties qui avancent. Et j'ai voulu en synthétiser avec mon co-auteur, il faut évidemment mentionner Elisa Brune, qui m'a aidé dans cette écriture. Je fais un petit peu la synthèse de... Bon, ça fait 30 ans que je fais des conférences. Bon, le plus souvent, je fais des conférences sur les trous noirs, la cosmologie, l'astrologie, un peu mes spécialités, et puis aussi sur tous les, un peu tous les sujets de l'astronomie. Et je vois bien que l'on me pose constamment des questions sur la vie ailleurs dans l'univers, sur y compris des questions sur que vont être les futurs télescopes, les nouveaux moyens d'observation, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y a au fond des trous noirs, comment on devient astronome, tout ça. Donc voilà, donc il y avait des sujets sur lesquels j'avais beaucoup écrit déjà, les trous noirs, la forme de l'univers, la cosmologie, le Big Bang, d'accord, mais finalement je n'avais jamais rien écrit sur ces autres questions, comment on devient astronome, quels sont les métiers de l'astronomie, quels sont les instruments aujourd'hui à notre disposition, qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur, etc. Donc j'ai essayé de tout mettre ensemble et faire ce grand récit, les bonnes nouvelles des étoiles, où en fait on parle non seulement des étoiles, on part du plus petit grain de poussière interplanétaire jusqu'à l'univers gigantesque dans son ensemble, y compris
l'énergie
parfois
noire.
De parler de théories encore spéculatives sur un avant Big Bang, des raccourcis d'espace-temps, etc.
Et vous avez dit que c'est votre livre le plus grand public parmi vos livres savants, parce que vous avez signé des romans aussi, et là c'est très grand public. Mais ça, c'est votre livre de vulgarisation scientifique le plus vulgarisé.
Et oui, nécessairement, puisque finalement, il n'est pas plus gros que les autres. Hein. D'ailleurs, je ne sais plus, 250 pages. Mais là, il y a toute l'astronomie qui est là-dedans. Forcément, c'est plus léger. Il y a beaucoup d'informations. C'est dense, mais je crois écrit avec une forme littéraire assez légère et facile à lire. Et donc du coup, je crois qu'effectivement, on ne rentre pas dans des détails compliqués. Et j'espère que ça peut susciter chez les jeunes quelques vocations supplémentaires.
Et chez les plus vieux, j'en témoigne, ça se lit comme un roman, effectivement. Alors, de l'autre côté d'une petite pause musicale, on va y aller justement dans vos zones de compétences un peu plus pointues. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, auteur, mais aussi, et ça on va en parler plus tard, artiste, poète. Jean-Pierre Luminet, il y a un astéroïde qui porte votre nom en hommage à votre travaux en cosmologie, parce que vraiment votre domaine de prédilection, c'est la topographie, c'est la forme de l'univers.
Oui.
Cet astéroïde, alors... d'ailleurs, vous le voyez souvent, vous le regardez?
Non, il n'est pas visible à l'œil. Hein. Alors, c'est évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai découvert, parce que je ne suis pas astronome, je ne fais pas d'observation, etc. Mais il se trouve que, bon, les astronomes qui découvrent les astéroïdes ont la possibilité de proposer des noms pour baptiser ces astéroïdes. Donc, on m'a offert cet astéroïde numéro 5523. Oui, pour mes travaux en cosmologie et sur les trous noirs, ce sont les deux domaines sur lesquels j'ai travaillé et sur lesquels je me suis fait un petit peu connaître. Voilà. Donc, notamment en cosmologie, au-delà des grandes interrogations sur le Big Bang, qu'est-ce que c'est exactement, sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Plus spécifiquement, je me suis passionné depuis 15 ans, je continue évidemment, sur une question relative à la forme de l'univers. Alors, c'est une question que les enfants, même les gosses se posent parfois, monsieur, est-ce que l'univers il est infini ou pas? Et alors, certaines personnes sont un peu effrayées par l'infini, parce que c'est vrai que ça n'arrête jamais, donc...
ça donne le vertige.
Ça peut donner le vertige. D'autres n'arrivent pas à concevoir que l'univers puisse être fini, ou alors s'ils croient que l'univers est fini, ils se disent mais alors il y a un bord, donc il est plongé dans quelque chose comme une sorte de ballon, et ça c'est une image totalement fausse. Donc il faut essayer de réellement expliquer tout cela, les différentes possibilités pertinentes aujourd'hui dans notre science moderne sur la taille et la forme de l'univers. Alors, j'ai beaucoup travaillé dans ce domaine-là, j'ai écrit plusieurs livres et notamment j'ai inventé avec quelques collaborateurs un concept un peu original, effectivement, il faut bien le reconnaître, le concept d'univers chiffonné.
Bon, qu'est-ce que c'est? C'est pas
alors,
un univers
c'est quoi,
croissé,
l'univers
chiffonné là?
Alors, ce sont des modèles mathématiques d'abord qui tentent de décrire la forme de notre vrai univers, qui seraient en fait des formes d'univers fini, pas infini, sans bord. Alors ça, c'est un peu difficile à comprendre.
Oui.
Hein, ben ça veut dire qu'un univers fini sans bord, vous filez droit devant vous, toujours en ligne droite, dans une fusée. Un jour, vous revenez éventuellement à votre point de départ et pourtant, vous n'avez jamais fait demi-tour. Et vous n'êtes jamais tombé dans le vide ou quoi que ce soit. Donc, mathématiquement, on montre que c'est parfaitement pertinent, cohérent. Il existe donc ce type de modèle. En plus, ce type d'espace fini sans bord, on peut faire des opérations bizarres dessus, les chiffonner. C'est un terme un peu métaphorique que j'utilise, mais mathématiquement, ça prend du sens. C'est-à-dire, finalement, dire que tel bout de l'espace, c'est le même, en fait, qu'un bout que l'on croit ailleurs, que l'on croit voir ailleurs. En fait, c'est la même région.
C'est un mirage, c'est une illusion.
Une sorte de mirage, exactement. Et donc, ces modèles d'univers chiffonnés, je répète, tout à fait pertinents sur le plan des mathématiques, produiraient, si l'univers réel était comme cela, une gigantesque illusion d'optique, avec, en créant des images fantômes, des images multiples. Un peu, si vous voulez, comme si on vivait dans des pièces tapissées de miroirs qui démultiplient les rayons lumineux. Bon, alors évidemment, c'est plus compliqué que des pièces tapissées de miroirs, parce que justement, il n'y a pas de parois, ni de miroirs, mais c'est la forme très complexe chiffonnée de l'espace qui produirait ces illusions d'optique. Alors, au départ, ce qui semble être un jeu mathématique, c'est vrai que c'était un petit peu très ludique de jongler avec ces espaces mathématiques, on s'est aperçu en 2003 que les données d'un satellite de la NASA qui s'appelait WMAP, qui cartographiait quelque chose de fondamental pour les cosmologistes, qui s'appelle le rayonnement fossile, c'est le vestige refroidi du Big Bang, c'est-à-dire la première lumière émise dans l'histoire de l'univers. On baigne encore dans cette lumière refroidie. On analyse les structures et les caractéristiques. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu en 2003 ? Qu'il y avait, en fait, on voit des vibrations dans cette lumière. Et il manquait quelque part des notes graves. J'aime bien les analogies avec la musique.
Parce que vous avez beaucoup
la
musique.
Ça a vibré. Ouais. Voilà, l'univers un peu comme un tambour cosmique qui vibre. Au lieu de vibrer sur toutes les longueurs d'onde, parce qu'il serait infini, par exemple, tout très grand, il cesse de vibrer à partir d'une certaine échelle. Et ça, c'est ce qu'on voit dans les données. Donc on s'est dit, mais alors, il est possible que l'espace est finalement relativement petit, et c'est pour ça qu'on ne le voit pas vibrer sur une taille plus grande que ce qu'il a en réalité. Et on a trouvé un certain nombre de candidats, dont un qui a fait la une de la revue Nature en 2003, dont on a beaucoup parlé, ça s'appelle l'espace dodécaédrique de Poincaré. Bon, le terme fait peur, mais c'est fascinant. C'est un modèle d'espace qui a un peu une forme dodécaédrique reconnectée, un peu comme dans des jeux vidéo, si vous voulez, tridimensionnel, compliqué. Et ce modèle d'espace, quand on calcule la façon dont il vibre, on retrouve ce qui est observé dans le télescope. Ça ne veut pas dire qu'on a trouvé la forme de l'univers, ce serait prétentieux, mais en tout cas, c'est une piste nouvelle et intéressante qui tient la route 6 ans plus tard, parce que 2003, c'était il y a 6 ans.
Bah, j'allais vous dire, c'est une éternité, 2003, en science, c'est une éternité.
Pour la science de pointe, c'est une éternité. Et ce qui est miraculeux, c'est que le modèle a tenu dans cette éternité.
Il tient encore.
C'est-à-dire, souvent, voilà, les modèles vont à la poubelle rapidement. Il tient encore et on espère beaucoup du lancement du satellite Planck qui a été fait donc en avril 2009. Et c'est un satellite qui va aussi cartographier le rayonnement fossile avec plus de précision que WMAP, et donc peut-être que là on aura des indices supplémentaires, soit pour confirmer ou soit pour éliminer le modèle de l'espace chiffonné.
Pour faire valoir, par exemple, en 2003, oui, ça a fait la couverture de Nature, même qu'il y a un éditorial dans Nature à l'époque qui vous comparait comme type de scientifique aux scientifiques de l'ère de Kepler.
Oui, ça, c'est le plus bel hommage qu'on m'ait jamais rendu.
Oui, j'imagine, quand j'ai lu ça, j'ai dit, il devait quand même être content, Jean-Pierre Luminet. Mais bon, donc, on a accepté et on a célébré cette nouvelle idée que vous présentiez. Mais vous la présentiez comme scientifique européen, vous la présentiez comme scientifique francophone. Et ça, c'est pas toujours la voie royale pour présenter des nouvelles idées, même en astrophysique.
Oui, mais enfin bon, nos articles techniques sont rédigés en langue anglaise, bien entendu. Alors bon, c'est vrai qu'après, dans des labos anglo-saxons ou essentiellement américains, qui se croient avoir l'apanage de la vérité cosmologique, c'est vrai que notre papier de Nature,
ça a chiffonné
signé
un peu.
On était 5 auteurs, il y en avait 4 européens, il y avait quand même un mathématicien américain de mes amis, tout à fait formidable, mais qui n'est justement pas dans le courant des cosmologistes américains, puisque lui c'est un mathématicien. Voilà. Et c'est vrai que ça a un peu énervé. Donc on a eu pas mal de critiques et de controverses. Mais c'est bien, parce que ça fait avancer les choses. Parce que du coup, nous, on a affiné nos arguments. Si on a des contradicteurs, que ce soit de bonne foi ou pas, on affine nos arguments. Et c'est comme ça que ça a avancé. Et en plus, depuis, comme l'article était un petit peu sensationnel, il y a plein d'équipes qui se sont mises à travailler de par le monde dessus. Il y a des Brésiliens, il y a des Polonais, il y a des Chinois, etc., etc. Donc ça fait avancer. On n'est plus seul. Et c'est ça qui est important.
Si on est seul dans l'univers, on ne le sait pas encore, mais vous n'êtes plus seul avec...
On est plus seul dans l'univers chiffonné.
Et quand on parlait justement de cet hommage que vous avez reçu dans Nature, on parlait de vous comme d'un scientifique qui ressemble un peu au scientifique de la Renaissance ou de l'époque de Kepler, parce que vous avez des intérêts variés.
Oui.
Entre autres, les arts, vous êtes artiste, vous êtes poète, et la musique. On va écouter, si vous le voulez bien, quelques notes de musique d'une pièce, Le Noir de l'Étoile, et on s'en reparle après. « Alors, Jean-Pierre Luminet, vous êtes astrophysicien, vous êtes un scientifique patenté, mais vous êtes aussi romancier, artiste, et vous avez à voir dans cette pièce de musique.
Oui, j'ai toujours été passionné par les arts, je dois le dire. Avant que d'être passionné par les sciences, j'étais passionné par les arts. Dès ma plus tendre enfance, j'ai baigné dans la musique, la peinture, la littérature, etc. Alors bon, je trouve qu'aujourd'hui, un petit peu, il y a un clivage qui est souvent fait entre justement les disciplines scientifiques qui se voudraient rationnelles, dépourvues d'émotions, et les disciplines artistiques qui se voudraient moins rationnelles, plus subjectives, etc. Je me suis toujours élevé contre ces clivages. Voilà, je suis fasciné par le modèle de l'homme de la Renaissance qui arrivait encore effectivement à pouvoir exercer avec compétence et pas simplement en dilettante superficiellement dans différents domaines. Alors la musique, oui, qui est l'une de mes plus grandes de passion, sinon la plus grande. J'ai eu la chance notamment de effectivement collaborer à la conception d'une œuvre musicale et astronomique dont vous venez d'écouter un extrait sans doute un petit peu étrange pour l'auditeur. Pourquoi ? Parce que ce sont des percussionnistes humains qui jouent et qui interagissent avec des rythmes cosmiques. Ce sont en fait des étoiles mortes qu'on appelle des pulsars qui fonctionnent un petit peu comme des phares radio et ils émettent un rythme. C'est pas un vrai son, hein, c'est un rythme électromagnétique, mais que l'on peut convertir facilement en rythme sonore. Et l'idée, donc, c'était qu'avait germé dans l'esprit d'un grand compositeur, Gérard Griset, qui m'avait donc contacté au début des années 90, c'était de faire interagir la musique des hommes et la musique des astres. Le résultat, c'est ce Noir de l'étoile qui a été joué un petit peu partout dans le monde entier, qui est enregistré en disque et voilà, qui met ensemble des rythmes apparemment très distincts, très différents, et puis surtout des rendez-vous célestes, parce que le pulsar ne passe pas n'importe quand dans la fenêtre de visibilité du radiotélescope, donc c'est plutôt lui qui va nous donner rendez-vous pour l'heure du concert, la date du concert et tout. Donc c'était cette belle interaction entre, voilà, entre ces deux temps différents.
Ça, c'est votre contribution du côté musical. Vous êtes romancier, donc évidemment, manier les mots, la langue. Vous êtes poète aussi. Vous avez publié des recueils de poèmes. Vous êtes aussi un artiste visuel. Vous avez eu des expositions.
J'ai fait des expositions, oui.
Quelle est dans votre vie...
Je ne peux pas faire autrement, de toute façon. C'est ma façon de fonctionner.
Vous ne pouvez pas faire autrement.
Non, je veux dire, c'est pas... Je veux dire, on me dit toujours, mais comment vous faites, c'est extraordinaire. Je dis, mais non, je serais incapable de faire autrement. Je n'arrive pas à m'atteler, si vous me mettez au début de la journée dans mon bureau, je n'arriverai jamais à travailler 8 heures de suite sur l'univers chiffonné. Il faut que je travaille. Je vais travailler 2 heures, puis après il faut absolument que je passe une demi-heure à écrire un petit bout d'un roman, et puis après je vais faire, je sais pas, moi je vais faire un petit peu de musique chez moi, et puis je reviens, etc. Je fonctionne un petit peu par petits bouts, et je rassemble peu à peu les pièces d'un grand puzzle. Ça veut dire tout simplement que je suis pas très linéaire.
Hein? Mais en même temps, ça fait une somme de travail incroyable. Voir tout ce que vous avez publié, tout ce que vous avez pu faire, on se dit, il a le secret du temps, il a démultiplié le temps.
Ben, il est vrai que je suis devenu très travailleur, en fait. Dans mon enfance, je faisais rien en classe, parce que tout me paraissait facile, donc je m'amusais. Et puis, un jour, je me suis tellement pris de passion, finalement, pour ça, pour tout ce qu'on pouvait créer, pour la création en général. Moi, c'est la création qui m'agite.
Alors, c'est pas la science qui vous a attiré, c'est la création.
Non, c'est la création. C'est la création. Donc, figurez-vous, moi, quand j'avais 20 ans, etc., évidemment, j'avais fait des études scientifiques, parce que j'étais bon en maths. Donc, on nous met automatiquement dans les filières scientifiques. Alors, moi, je faisais des maths, parce que c'est ce qui me demandait le moins de travail.
Ah bon ?
Eh oui, parce qu'une fois que vous avez compris les équations, ça va très vite. C'est plus rapide que la philosophie, où il faut écrire de longues dissertations, et ainsi de suite. Voilà. Donc, je pratiquais la musique, je faisais de la peinture, je lisais énormément, j'écrivais, etc., etc. Et franchement, moi, quand j'avais 20, 22 ans, même dans mes études de mathématiques, je pensais devenir écrivain ou peut-être musicien. Et j'ai eu la chance, qu'est-ce qui m'a fait tourner vers la recherche scientifique ? J'ai lu un livre de vulgarisation. D'où l'importance des livres de vulgarisation et pourquoi je m'y suis mis, moi, plus tard, à les écrire. Un livre de vulgarisation formidable, donc qui datait des années 70, qui parlait un peu du Big Bang, à l'époque, c'était pas encore très connu, un peu du trou noir, on commençait à en parler. Donc, des sujets, moi, qui m'ont titillé l'imagination et qui m'ont fait dire, mais finalement, les maths que je fais, qui sont abstraits, c'est intéressant, mais c'est tout à fait pas de rapport avec le réel, mais si, ça peut servir à faire des choses aussi grandioses que carrément décoder, finalement, les mystères de l'univers. Qu'est-ce que c'est l'espace ? Qu'est-ce que c'est le temps ? Est-ce que l'univers est éternel, infini ou pas ? Et voilà, donc du coup, j'ai basculé et j'ai compris que la recherche scientifique, pour devenir aussi créatrice que la recherche artistique et littéraire.
Et j'ai lu quelque part, quand vous décriviez votre parcours d'enfant à scientifique connu et reconnu, que votre première vocation, c'était le rêve. Vous étiez d'abord rêveur. Et avec tout ce que vous avez intégré de romans, de poésie, de musique, tout ça, avez-vous l'impression d'avoir réalisé cette ambition, d'avoir suivi cette vocation?
Oui, bon. non, on ne réalise jamais complètement le rêve. Hein. Moi, j'ai fait des rêves que je ne réaliserai jamais. Hein. On vole dans l'espace, dans l'univers, etc. Bien entendu. Non, mais c'est vrai, la part onirique est aussi très, très importante. Il y a une part ludique aussi, il faut bien voir, dans la création et la création scientifique. On peut jouer avec des équations, jongler avec. Bon, il suffit d'avoir un peu la technique. Hein. C'est-à-dire, un prestidigitateur, il doit s'entraîner aussi pour faire des tours. Donc, un mathématicien, un physicien théoricien, il doit savoir un peu jongler avec les équations pour en faire sortir des choses intéressantes. Et il y a une forme de jeu. Mais après, au-delà du jeu, si on veut faire de la physique, si on veut essayer de décrire le monde réel, bah, et quand même, il faut confronter le jeu à la dure réalité. Hein. Les instruments, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les mesures, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, c'est cette confrontation qui m'intéresse. Alors, souvent, le jeu, il vient en partie du rêve, et de la rêverie poétique ou pas, d'ailleurs, sur des idées qu'on peut se faire sur l'univers. A priori, la conception d'un univers chiffonné, par exemple, elle est un peu poétique. Elle est à la limite onirique, si vous voulez. Après, on arrive à la mettre en forme. Tout comme un artiste, si vous voulez, qui aura une idée musicale ou l'idée d'une œuvre plastique, il va y avoir un petit germe, il va élaborer ça avec une certaine structure. C'est pareil avec les modèles scientifiques. Mais après, le modèle scientifique, il se doit d'être objectif et plus subjectif. Donc, il faut le confronter à la réalité expérimentale et ensuite, après, également aux
observations, éventuellement.
Oui, et à la communauté aussi. Oui. Il faut que ce soit accepté par tous parce qu'il faut que ce soit cohérent, pertinent et tout et tout. Et c'est ce jeu qui est fascinant. Le rêve constamment, les ailes de l'imagination constamment rognées, coupées, et on essaie de continuer à voler.
Et ça repousse. Et ça repousse.
Comme
une queue de lézard.
Parce que,
ouais.
Voilà. Alors c'est pour ça que moi, des scientifiques du passé comme Kepler, par exemple, me fascinent, parce que Kepler est quelqu'un qui a su à plusieurs reprises dans sa carrière, où il a fait preuve d'une prodigieuse imagination, d'une invention permanente, savoir changer de chemin. Quand les observations montraient que finalement son idée ne marchait pas, il passait à autre chose et voilà. Et comme ça, il a toujours été créatif. Il y a d'autres scientifiques, c'est pas le cas. Même quelques grands scientifiques qui sont restés toute leur vie enfermés dans une idée, voilà. Donc moi, je suis avec cette idée un peu fantasmatique d'une création sans cesse renouvelée.
Jean-Pierre Luminet, et nous comme citoyens, est-ce qu'il faut travailler aussi à se tenir au courant de ce que l'astrophysique apprend, des dernières données scientifiques, pour être un citoyen compétent?
Absolument.
Est-ce que c'est un luxe ou est-ce que c'est une nécessité sur la science?
Alors, comme disait mon ami Hubert Reeves, effectivement, la culture scientifique n'est pas un luxe juste pour homme cultivé, c'est une nécessité absolument fondamentale et sociale. Il y a des enjeux sociaux dans la compréhension de la science, ne serait-ce que d'abord à l'échelle le planétaire, hein, mieux comprendre les enjeux de la planète. Hein. Aujourd'hui, les problèmes, j'ai mentionné au début un peu de court terme sur notre planète, les nouvelles ne sont pas très très bonnes, il faut en connaître les enjeux, les expliquer. Mais les expliquer de façon objective, hein, ce n'est pas toujours du négatif. Si on pense aux déchets nucléaires, au réchauffement climatique, aux OGM, aux manipulations génétiques, il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Il faut des passeurs de savoir. Alors parfois, ce sont des professionnels, des scientifiques professionnels qui acceptent de faire cela, ou parfois, ça peut être des médiateurs journalistes quand ils font bien leur travail, mais c'est un travail essentiel. Et il y a une responsabilité de la part du public, à condition qu'on leur offre ça. Il faudrait que les médias, bon, c'est très bien, à la radio vous le faites, à la télévision, je dois dire, en France en tout cas, sur les chaînes publiques, les documentaires scientifiques ont quasiment disparu.
Ah oui.
On n'offre plus là cette possibilité au public de s'informer. Or, le public a besoin de ça pour être pleinement citoyen. Il a besoin de savoir dans quel univers on vit. Alors, je suis d'accord qu'on n'a pas nécessairement besoin de savoir exactement quel est le plus proche trou noir, etc. Ou quel est l'âge de l'univers, comment a été le Big Bang. Mais au moins des choses de plus... Enfin, voilà, un peu de proximité. L'état de notre planète, que nous dit la biologie également, tout un ensemble de choses. Et voilà, pour être pleinement citoyen du monde, pleinement suffisamment informés. La culture scientifique est absolument fondamentale.
Et l'astrophysique, pour vous, elle est ancrée dans la culture, pas seulement dans la science comme telle. L'astrophysique, elle a une âme.
Elle fait pleinement partie de la culture. Elle a une âme. L'âme, justement, que j'essaie aussi de raconter dans mes romans, Les Bâtisseurs du Ciel, où on montre justement comment ces grands savants, les Copernic, Kepler, Galilée, ce ne sont pas des êtres désincarnés. Ils ont une âme. Ils ont révolutionné la science avec leur âme, avec leur cœur, avec leur esprit, tout cela ensemble, en se heurtant à la société, aux obstacles idéologiques, politiques, philosophiques, religieux, etc. C'est ça la science. La science est totalement partie intégrante de la société. Elle en est d'ailleurs l'un des moteurs, en fait, des progrès et de l'évolution, mais parfois aussi, ça bifurque dans les directions un petit peu dangereuses. Voilà, c'est pour ça qu'il faut une science responsable. Et entre maintenant la notion fondamentale d'éthique, il doit y avoir une éthique scientifique. Alors, l'éthique est plus évidente dans des domaines tels que la biologie. Faut-il faire des manipulations biologiques, des manipulations génétiques, des clonages, etc. L'éthique, elle est moins évidente dans les domaines plus lointains, comme les sciences de l'univers, mais il y a quand même, malgré tout, des questions d'éthique qui se posent également dans ces domaines-là. Donc le scientifique doit être un être responsable et le grand public doit avoir aussi la responsabilité de savoir s'informer correctement de ce qui se fait dans les labos.
Ben, ça fait plaisir d'avoir des scientifiques comme vous qui prenez la peine de venir à nous, public, expliquer toutes ces choses, entre autres dans ce livre, ce dernier livre, Bonne nouvelle des étoiles, Jean-Pierre Luminet, que vous signez avec Elissa Brune aux éditions Odile Jacob. Il y a cette série des bâtisseurs du ciel sur les grands astronomes Kepler, Copernic, Galilée.
Et je suis en train de finir le dernier volume sur Newton.
Newton s'en vient, c'est promis, c'est juré pour tout le monde. Merci beaucoup.
Merci à vous
de cette visite aux années-lumière. Je rappelle que vous êtes astrophysicien, écrivain, poète, artiste et spécialiste des trous noirs et de la cosmologie, de la topologie de l'univers, directeur de recherche au Centre national de recherche scientifique et membre du laboratoire Univers et théorie à l'Observatoire de Paris-Meudon. Merci beaucoup.
Merci.
C'était une grande rencontre de Sophie André Blondin avec Jean-Pierre Luminet.
Ils sont des dizaines de milliers établis dans la région de Montréal et pourtant leur présence est rarement la bienvenue. Les goélands à bec cerclé, grands amateurs de sites d'enfouissement et autres poubelles de fast-food, seront bientôt dans la mire du biologiste Jean-François Giroux de l'Université du Québec à Montréal. L'équipe du chercheur va équiper certains oiseaux de GPS miniatures pour mieux comprendre leurs déplacements, leur alimentation et leur habitat, dans l'espoir de pouvoir mieux contrôler cette population. Dans la région montréalaise, 80 000 couples de goélands nichent dans quatre îles du fleuve Saint-Laurent, au prix de certains désagréments pour les résidents du secteur. Plusieurs villes de la couronne nord sont d'ailleurs impliquées dans ce projet de recherche, qui prendra sous peu son envol pour une durée de 3 ans.
Une promenade interplanétaire en plein air. C'est l'invitation que lance le Centre d'études collégiales en Charlevoix dans le cadre de l'Année mondiale de l'astronomie. L'exposition permanente intitulée « Balade à la vitesse de la lumière » représente le système solaire réduit 1,5 milliard de fois dans un sentier pédestre de 3 km. Cette exposition est inaugurée aujourd'hui même au manoir Richelieu de la Malbaie, point de départ du trajet stellaire. Du Soleil à Neptune, on trouve une fiche explicative et une représentation en 3 dimensions de chacun des 9 astres. Les points d'arrêt sont placés en respectant les distances entre les planètes de notre système solaire réduites à notre échelle. Le Centre d'études collégiales en Charlevoix est affilié au Cégep de Jonquière et s'implique dans la promotion et le développement de la culture scientifique dans la région de Charlevoix. Cette exposition vise à faire découvrir les objets célestes que Galilée a observés au télescope pour la première fois il y a 400 ans.
l'accès à Internet haute vitesse un droit fondamental au même titre que le droit à la liberté d'expression. En tout cas, ça sera chose faite pour 5 millions de Finlandais à compter de juillet 2010. Dans ce pays, 79 % de la population est déjà connectée, mais le gouvernement estime que ce n'est pas suffisant et que le seul moyen pour s'assurer que les zones rurales puissent en bénéficier, c'est qu'il devienne un droit fondamental. Pareil droit, selon le gouvernement, permettrait de débloquer les investissements nécessaires pour raccorder toutes les régions rurales au réseau Internet. Seuls 2000 foyers situés dans les régions les plus désertes seront exclus. Les opérateurs d'Internet devront par ailleurs installer la fibre optique dans tout le pays d'ici 2015, faisant du même coup passer le débit minimal à haute vitesse de 1 mégaoctet à 100 mégaoctets. La Finlande est le premier pays à inscrire l'accès à haute vitesse dans sa loi. Il pourrait y avoir d'autres pays. La communauté européenne en discute la possibilité.
La pomme de terre est le tubercule le plus populaire au monde, mais la patate a ses ennemis. Le nématode, par exemple, ressemble à un ver d'à peine 1 mm, mais ce parasite affecte grandement les récoltes. Les productions régionales sont mises en quarantaine lorsqu'il est détecté et il peut persister dans les sols pendant 25 ans. Pour s'en débarrasser, on pulvérise un pesticide puissant, le bromure de méthyle, qui est par contre dommageable pour l'environnement. Heureusement, un biologiste de Sherbrooke vient de décoder le signal moléculaire émis par le nématode. Le système immunitaire de certaines variétés de pommes de terre reconnaît ce signal et peut sonner l'alerte pour protéger le tubercule. Peter Moffett croit qu'en choisissant ces variétés, il sera possible de déclencher la réponse immunitaire dans des cultures de pommes de terre. Une guerre génétique, en quelque sorte. Les travaux de l'équipe de l'Université de Sherbrooke ont été publiés dans la revue PLOS Pathogens.
La voiture entièrement électrique ou la voiture hybride est à la mode. Il ne se passe pas une semaine, en fait, sans qu'un constructeur n'annonce un nouveau modèle. Les raisons, bien, sont multiples. Elles sont bien connues aussi. La crise dans l'industrie automobile, le réchauffement de la planète, les gaz à effet de serre, le prix du pétrole qui va augmenter au cours des prochaines années, bien sûr, et aussi une concurrence féroce à l'échelle internationale. Ça fait pas mal de bonnes raisons. La technologie est là, elle évolue rapidement, et ceux qui ne monteront pas dans le train, enfin, si on peut dire, Luc de Roussan, ceux-là vont rester en gare, ou en tout cas sur le bord du chemin.
Sur le quai de la gare, en tout cas. Mais il faut dire, Yannick, qu'actuellement, certains prédisent que jusqu'à 30 % du marché mondial de l'automobile sera électrique d'ici 2020, donc c'est dans pas très longtemps. On parle d'un marché donc de plus d'un milliard de voitures, et 30 % d'un milliard, c'est 300 millions de voitures, c'est tout un marché qui va être à prendre. La technologie grand public qui est actuellement privilégiés par les constructeurs et les gouvernements, eh bien, ce sont les voitures hybrides rechargeables, davantage que les voitures tout électriques, parce qu'elles coûtent plus cher et elles ont beaucoup moins d'autonomie que les voitures hybrides. Certains constructeurs ont déjà un pied à l'étrier, par exemple Toyota, qui en est à sa troisième génération de voitures hybrides. Elle prévoit en vendre 500 000 modèles en 2010. Plus près de chez nous, il y a GM, qui veut lancer son tout premier modèle en 2011, la Volt de Chevrolet, mais il y aura un début assez timide puisqu'on prévoit seulement 10 000 voitures de vente. Mais ce ne sont là que des exemples et il y en a beaucoup d'autres.
Bien sûr, alors, grande question quand même qu'on commence à poser. Est-ce que ces voitures hybrides rechargeables, est-ce qu'elles sont si vertes que ça?
En tout cas, beaucoup plus vertes que les voitures à explosion qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui. Les voitures hybrides rechargeables qui seront proposées auront une autonomie électrique de 50 à 70 km avant d'avoir besoin d'être chargées. Il faut dire aussi que les trois quarts des gens roulent moins de 65 km par jour. Ce qui veut dire, en moyenne, une voiture hybride rechargeable roulera à 80 % électricité et 20 % à l'essence, ce qui équivaut environ à 2 à 4 litres au 100 km et une autonomie combinée essence-électricité de plus de 1200 km. Donc, une voiture hybride rechargeable privilégiée et aussi préconisée par Pierre Lavallée, qui est le directeur du Centre national du transport terrestre avancé. Je l'ai rencontré lors de la conférence FEV 2009, FEV pour l'acronyme PHEV, sur les véhicules hybrides et électriques rechargeables, qui s'est déroulée dernièrement à Montréal.
l'hybride électrique branché est un produit qui va exister au cours des 50 prochaines années, définitivement, parce qu'il permet de combiner l'autonomie que les gens souhaitent pour un véhicule polyvalent, multi-usage. Il permet aussi d'offrir une plage de fonctionnement en mode électrique en ville à une certaine vitesse, donc zéro émission au moment et zéro bruit au moment de son utilisation. Le problème, c'est pas tellement le moteur. Le problème, c'est le coût de production et le problème, c'est le marché. Les constructeurs sont hésitants à introduire trop de nouveaux produits sur le marché, ne sachant pas si les consommateurs vont réagir positivement. C'est ce que les constructeurs nous disent.
C'est toujours le même raisonnement. Le consommateur va finir par acheter les produits qu'on va lui offrir, surtout si en plus le gouvernement mise à fond sur, dans telle ou telle direction.
Au Québec puis au Canada, on n'est pas gâté en termes d'efficacité énergétique de nos moteurs. En moyenne, ici, on fait 10 litres au 100. En France, on fait 6 litres au 100. C'est clair qu'on dépense 4 litres en pure perte parce que les constructeurs automobiles ont décidé que c'est ça qui nous offrait. Mais quand on est rendu dans le domaine des véhicules électriques et hybrides, c'est que là, on s'attaque à un autre marché. On veut encore diminuer la consommation de pétrole. On veut encore améliorer l'efficacité énergétique des véhicules. Aujourd'hui, quand on choisit la piste des véhicules électriques, on est sur la bonne piste. On prend un axe qui nous permet d'avoir des résultats qui vont s'améliorer d'année en année. Si je prends l'exemple, le moteur thermique, le moteur à essence, ça fait 100 ans qu'on cherche à l'améliorer. Dans les meilleurs des cas, on est rendu à 30 % de rendement. Le moteur électrique, on est en moyenne à 80-90 % de rendement. Alors, ce que ça veut dire, c'est que, objectivement, voilà un moteur qui correspond bien à son application. Quand vous avez 80 % de l'énergie embarquée qui est utilisée à la fonction principale qui est de faire avancer le véhicule, vous avez là une efficacité énergétique majeure. Si vous êtes avec un véhicule thermique et vous êtes à 20 % ou à 25 % et ça fait 100 ans qu'on travaille dessus, il n'y a pas beaucoup d'espoir.
Et la voiture hybride, c'est combien?
La voiture hybride, ça dépasse les 60 % dans tous les cas. Donc, ça double. Automatiquement, ça double. Et là, ça peut monter encore plus dépendant des technologies qui sont embarquées. Là.
Est-ce que c'est irréversible? Est-ce qu'on ne va pas revenir à une nouvelle politique qui va mettre un frein à l'apparition de ces voitures à faible consommation d'essence, à faible pollution?
Je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. D'une part, c'est très relié au débat sur le climat. C'est très relié aux enjeux sur les gaz à effet de serre. Et donc, plus on s'intéresse à cette question-là et plus on cherche les causes des gaz à effet de serre, on se rend compte que le secteur des transports et de l'automobile est le seul secteur actuellement qui est hors de contrôle. Quand on comptabilise les gaz à effet de serre, on réalise que l'habitation, la demande énergétique industrielle et les gaz à effet de serre du secteur industriel, le secteur agricole, tous ces secteurs-là ont vu des baisses suite aux politiques qui ont été mises de l'avant. Le seul secteur qui est en explosion actuellement, c'est le secteur du transport terrestre. L'électricité est dans une posture exceptionnelle. Déjà, les TGV, les métros, les trains, les trolleys sont tous électriques. Donc, il y a comme une habitude de travailler avec l'électricité pour transporter des gens. Le transfert à l'automobile et au camion va se faire de façon naturel à partir du moment où ça va devenir une priorité des économies. Et les pays n'iront pas tous au même niveau. Comme ici, nous au Québec, on s'est orienté vers l'hydroélectricité dans les années 50, 60, 70. La province voisine s'est orientée vers le nucléaire. On peut penser que dans le domaine de l'automobile et dans le domaine des transports terrestres, il y aura des choix divers. Il y a probablement des États qui vont rester collés sur le diesel. Il y en a d'autres qui vont, comme le Brésil, s'intéresser au biocarburant. Il y en a d'autres qui vont s'intéresser plus au gaz naturel. Mais moi, je suis de ceux qui croient que le Québec et le Canada devraient prioritairement s'intéresser à l'électricité dans les transports. Si je prends le cas du Québec, il ne peut pas trop se disperser dans toutes sortes de solutions. Les budgets sont limités et ça devient compliqué. Une région du monde comme le Québec qui voudrait être de toutes les sources, va manquer le bateau parce qu'il n'y aura jamais assez d'argent pour favoriser le développement. Donc, le Québec doit prendre position et doit investir de concert avec le Canada sur des filières énergétiques et doit y travailler sérieusement, quitte à en laisser tomber définitivement d'autres, parce que sinon, on va perpétuer le cercle des petits résultats.
Alors, Hugues, dites-moi, vous avez réalisé cet entretien avec Pierre Lavallée dans un environnement sonore presque bucolique, n'est-ce pas?
Oui, pas très loin de nous. Il y avait une belle chute d'eau et c'est ce qu'on entendait à l'arrière.
C'est magnifique, magnifique. Alors, on a dit, hein, Hugues, ceux qui ne vont pas monter dans le véhicule vont rester sur le bord de la route. Québec-Canada, comment ça se passe? Est-ce qu'on va embarquer dans le véhicule?
Écoutez, difficile à dire, Yannick, mais ici au Québec, on a quand même des atouts qui pourraient permettre à la province de se tailler une place dans ce nouveau marché de la voiture électrique. On sait qu'au Québec, il n'y a pas d'industrie automobile comme en Ontario, mais on a quand même 280 entreprises qui fabriquent des pièces automobiles. Mm-hmm. On a aussi Hydro-Québec et son centre de recherche, l'IREC. Actuellement, on y met au point une batterie lithium-ion qui est capable de se recharger en quelques minutes au lieu de quelques heures.
Fondamental.
Et on sait que les batteries, c'est le nerf de la guerre.
Bien sûr.
Toujours avec Hydro-Québec, via sa filiale TM4 et son centre de recherche, eh bien, on travaille au développement de moteurs électriques depuis plusieurs années. D'ailleurs, le constructeur indien Tata s'est associé avec Hydro-Québec pour tester un de ses moteurs en Norvège cette année. On écoute à nouveau Pierre Lavallée.
La question est de savoir comment le Québec, en 2009, après avoir attendu 15 ans avant de se positionner définitivement, pourra-t-il rattraper les autres qui sont très engagés dans cette industrie? Ici, au Québec, on a fait le deuil de la fermeture de GM et des emplois autour. On est moins agressif actuellement parce qu'on a moins d'emplois à perdre.
Si on prend sur papier, effectivement, il y a moins d'emplois à perdre, mais en même temps, il y a un marché mondial qui est en train de s'ouvrir. En fait, c'est à celui qui saura le prendre qu'il prendra. Le Québec a une expertise dans tout ce qui touche l'électricité. On ne pourra pas lui enlever ça. Pourquoi le Québec n'y va pas? Quitte à éventuellement s'associer à des grands équipementiers ou à des grands constructeurs pour partager la technologie qui viendrait d'ici.
Ce que nous voyons actuellement, c'est que Hydro-Québec est engagé maintenant, de façon claire. Depuis cet été, avec son plan d'action quinquennal, il a bien identifié l'électrification des transports comme étant une stratégie gagnante. On sent bien chez Hydro-Québec qu'il y a des efforts qui sont faits actuellement de façon systématique pour positionner Hydro-Québec à plusieurs niveaux. Il faut savoir que dans le cas des véhicules électriques et hybrides rechargeables, c'est fondamental d'avoir un lien avec le réseau. Hydro-Québec a bien pris en main tout cet aspect-là des choses. Donc, on peut comprendre que notre énergéticien national va s'occuper à faire en sorte qu'on électrifie de plus en plus de moyens de transport au Québec. Quand on pense à l'industrie du véhicule électrique et hybride rechargeable, il y a la portion véhicule, il y a aussi la portion où il faut recharger le véhicule et il y a aussi la portion où il faut alimenter en électricité ce véhicule-là. Si Hydro-Québec s'occupe de la portion recharge et de la portion réseau, c'est déjà énorme dans le domaine des véhicules électriques et hybrides. Et là, on n'est pas dans la fonction batterie ou moteur.
On n'a pas changé le problème. Si Hydro-Québec, finalement, ne s'occupe que de la partie rechargée et de la partie distribution d'électricité pour des fins de voiture, on n'a pas changé la position du Québec dans l'industrie automobile.
Sur cette question-là, votre raisonnement est juste. Maintenant, il faut voir comment Hydro-Québec va profiter de sa position pour mettre en place des programmes de démonstration de ces nouvelles technologies. Comment aussi Hydro-Québec va profiter des technologies qu'il a mis au point pour infléchir les constructeurs automobiles et amener ses produits sur le marché. Et ça, pour moi, c'est deux débats. Il faut, dans un premier temps, compter sur notre énergéticien national pour faciliter l'ouverture du marché ici en prenant la responsabilité des bornes de recharge et du réseau. Hydro-Québec aurait pu dire, ben écoutez, moi, je m'en occupe pas, moi, c'est pas mon... Mais non, au contraire...
Hydro-Québec a tout intérêt à être prêt au moment où le marché sera envahi d'auto-électriques et d'auto-hybrides. Hydro-Québec n'a pas intérêt à laisser passer ces revenus-là.
Oui, mais je vous dirais que depuis 15 ans, c'est pas la première fois qu'on annonce l'arrivée des véhicules électriques. cette fois-ci...
C'est la bonne.
On peut croire que c'est la bonne. Évidemment, moi qui travaille dans ce métier-là depuis 15 ans, j'ai vu l'engouement des années 90 avec Bill Clinton aux États-Unis. J'ai vu aussi le désenchantement avec Bush. Hydro-Québec et le gouvernement du Québec doivent être avisés qu'ils ne peuvent pas manquer le bateau. Je pense qu'ils ont compris le message et ils le font. C'est déjà une bonne nouvelle. Sur la question des technologies développées, par exemple, par Hydro-Québec, Hydro-Québec doit s'assurer que ces technologies-là donnent les résultats escomptés. Nulle part ailleurs sur la planète, on compte sur les énergéticiens pour développer des moteurs et des batteries. C'est très rare. Le cas des batteries, on peut dire que c'est un peu exceptionnel parce que normalement, les accumulateurs, c'est une fonction qui est très près des énergéticiens. Mais c'est assez exceptionnel de voir qu'une compagnie comme Hydro-Québec a pu s'impliquer à ce point à une certaine époque, par exemple dans le développement de moteurs. C'est pas un fait isolé, mais habituellement, ils s'inscrivent pas dans cette note-là. Maintenant, ils l'ont fait. Ils ont l'obligation d'arriver à des résultats et nous estimons que les efforts qui sont faits au cours des dernières années devraient donner des résultats.
C'était Pierre Lavallée, directeur du Centre national du transport terrestre avancé. L'industrie demande de l'aide des gouvernements. Hugues, est-ce que les gouvernements répondent à l'appel?
En tout cas, ils ne sont pas contre la vertu, bien entendu, mais on ne voit pas encore d'engagement financier réel et de mise en place de politiques bien établies. À Ottawa, par exemple, le gouvernement dit travailler avec des partenaires pour identifier et développer des technologies en vue d'accélérer le développement des véhicules électriques au Canada. Bien. C'est un beau projet. Mmh. À Québec, le ministre des Ressources naturelles, Claude Béchard, lui, voit la voiture toute électrique dans sa soupe. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de plan sur la table. Peut-être un début de plan au cours de l'automne, sans compter qu'à Investissement Québec, la voiture hybride rechargeable n'est pas une priorité. Si on va faire une petite comparaison avec les États-Unis, l'administration Obama veut 1 million de voitures électriques ou hybrides sur les routes en 2015, et en France, avec un plan national qui prévoit 2 millions de voitures électriques et un réseau de 5 millions de bornes en 2020 et 10 millions en 2025. On a encore du chemin à faire.
Merci beaucoup, Hugues.
Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission signée Dominique Lapointe avec à la technique Michel Potvin, les journalistes Gaëlle Lucia Berdou, Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan, Chantal Srivastava et Nathalie Vignot, notre stagiaire Fernand Seguin, journaliste au site internet Lily Marin, chroniqueur invité cette semaine Yves Gingras. La semaine prochaine, ne manquez vraiment pas le Big Bang en 3 minutes, un concours qui mettra à l'épreuve 4 scientifiques de 4 pays, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, qui auront exactement 3 minutes, pas une seconde de plus, pour expliquer le début de l'univers. C'est bien beau ça. Hein? Alors c'est Yannick Villedieu qui vous parle. Je vous souhaite de passer une bonne semaine à l'antenne de Radio-Canada. Et puis je vous souhaite surtout de nous revenir la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.